CQFD. Stéphane Gabiou.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver à l'enseigne de CQFD avec un autre menu ce matin notamment, et on va commencer l'émission avec ça, la dépendance aux jeux vidéo. La voici officiellement reconnue comme maladie, Stéphane Delétro.
Oui, la dépendance aux jeux vidéo fait désormais partie de la CIM, la classification internationale des maladies de l'OMS. Alors avec notre invité, nous verrons ce que cela change, quels sont les risques, quels jeux sont plus addictifs que d'autres, quels critères sont retenus pour poser un diagnostic ou encore que faire si mon enfant joue beaucoup trop à mon goût.
Nous parlerons ensuite conservation des espèces, nous verrons comment ça se passe en pratique sur le terrain pour certaines tortues marines, Silvio Dezan.
Et ceci en visitant un centre de soins et de conservation de la plus grande tortue marine de Méditerranée, la Kawan, un centre qui est situé dans la baie de Naples, juste vraiment à l'ombre du Vésuve.
Et enfin, séquence vieux cadavre en décomposition, vieux cadavre qu'il s'agit de dater. De nouveaux moyens viennent en aide aux spécialistes des sciences forensiques. Nous vous en parlions une première fois l'an dernier, l'occasion ce matin de revenir sur quelques avancées un peu macabres, on vous le concède. Mais voilà, ça fait partie comme ça aussi de la vie, finalement, de comprendre la mort. L'addiction aux jeux vidéo reconnus comme maladie, la conservation de la plus grande tortue de Méditerranée et de nouveaux moyens donc pour dater un corps en décomposition. Bienvenue dans CQFD. L'addiction aux jeux vidéo est donc officiellement considérée depuis hier comme une maladie par l'OMS, Stéphane Delétro.
Oui, l'Organisation Mondiale de la Santé l'a incluse dans sa CIM, la Classification Internationale des Maladies, un recueil de 3 volumes qui recense tous les symptômes, maladies, lésions traumatiques, empoisonnement et autres motifs de recours aux services de santé. Il faut savoir qu'un code est attribué à chaque problématique, par exemple C43.4 pour un mélanome malin du cuir chevelu et du cou, E56.1 pour une carence en vitamine K, F51.3 pour le somnambulisme ou encore V12 pour un cycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à 2 ou 3 roues.
Eh ben c'est précis.
C'est extrêmement précis, extrêmement détaillé. La CIM est utilisée par les médecins du monde entier pour diagnostiquer les affections et par les chercheurs pour classer des maladies par catégorie. Elle sert de cadre à la définition des statistiques et des tendances mondiales en matière de santé. La 11e révision de la CIM devrait être publiée à la mi-2018.
Et nous sommes en ligne avec Joël Bilieu. Bonjour Joël Bilieu.
Bonjour.
Vous êtes professeur en psychologie clinique à l'Université de Luxembourg. Vous êtes d'ailleurs un des experts mandatés par l'OMS sur cette question. Cette mesure qui a suscité le tollé des éditeurs de jeux vidéo, c'est logique évidemment, on le comprend, mais aussi d'un certain nombre de chercheurs. Quel est votre point de vue en tant qu'expert ?
Alors, quand on considère la question des jeux vidéo et quand on va regarder quelles sont les données scientifiques disponibles sur la question, je pense qu'il faut considérer le jeu vidéo dans sa dimension potentiellement excessive comme un problème de santé publique qu'il ne faut pas ignorer. Mmh. Et on est bien sûr chez un comportement qui peut devenir pathologique, mais chez une part évidemment réduite des joueurs.
C'est quelle part ? Est-ce qu'on peut la chiffrer ?
Si on va s'intéresser aux données sur la question, aux données de prévalence, hein, c'est-à-dire le nombre de personnes touchées dans des populations données, on peut supposer que de l'ordre de 1 à 2% des joueurs peuvent avoir, dans un certain nombre de cas, des conduites qui vont avoir un impact dans leur quotidien, hein, donc se traduire par un certain nombre de conséquences négatives dans leur vie.
Joël Bilieu, qu'est-ce que ça change finalement si un trouble est inclus ou pas dans la CIM ?
Alors ça a différents types d'implications. Tout d'abord, ça va permettre de développer de manière plus systématique des campagnes d'information et des campagnes de prévention sur qu'est-ce que c'est une utilisation excessive, une utilisation normale. Déjà là, rien qu'à ce niveau-là, on peut faire beaucoup en termes de santé publique en systématisant ce genre d'approche-là. Ça va aussi permettre de développer des centres pour recevoir les personnes en demande de traitement de manière plus systématique et également favoriser tout ce qui est remboursement des soins en lien avec ces problématiques-là. Ça va aussi ouvrir la perspective à davantage de financement de recherche pour permettre de mieux comprendre quels sont les facteurs qui permettent de prédire le développement d'un jeu problématique et puis de développer des interventions pour le traiter.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surpathologisation ? Il faudra bien faire la différence entre la passion que l'on peut avoir pour le jeu et la pathologie.
Oui, je pense que vous soulignez ici une question qui est fondamentale et à ce titre, les critères qui ont été inclus dans la nouvelle classification internationale des maladies vont spécifier de manière très claire que la conduite de jeu doit être assortie à des conséquences négatives tangibles dans la vie quotidienne. Hein, c'est notamment un des facteurs qui va être important pour permettre de distinguer ce qui est un comportement problématique de ce qui est un comportement non problématique. Parce qu'on sait qu'il y a toute une série de personnes qui vont jouer parfois plusieurs heures par jour sans que le comportement ait des répercussions négatives. Et à ce moment-là, il faut évidemment à tout prix éviter de potentiellement pathologiser ces joueurs pour qui, vous l'avez dit, le jeu est une passion.
Est-ce qu'il y a des types de jeux qui sont plus à risque d'addiction que d'autres ?
Alors oui, il y a certains types de jeux qui ont des caractéristiques plus addictogènes. Ça va dépendre de la manière dont ces jeux sont créés, notamment les jeux qui ont une forte composante sociale, qui impliquent beaucoup de joueurs et qui ont aussi ce qu'on appelle des classements internationaux reconnus, par exemple des fois associés aussi aux jeux professionnels, à l'e-sport, à la manière dont les jeux sont faits en termes de progression, hein, le fait qu'on peut accumuler de l'expérience, développer ses personnages, etc. Il y a toutes des caractéristiques vraiment inhérentes à ces jeux qui en rendent certains peut-être plus addictogènes que d'autres ou plus populaires que d'autres.
L'addiction aux jeux vidéo est définie précisément dans la CIM comme un trouble qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu.
Oui, alors ça veut dire finalement que la personne ou le joueur ici ne va plus être à même de maîtriser la manière dont il s'implique dans le jeu. Ça veut dire que la conduite de jeu ne va plus être forcément planifiée, elle va prendre plus de place que ce qui était prévu, on va peut-être jouer plus longtemps que ce qui était prévu, on va jouer dans certaines situations, par exemple en réaction à certains états émotionnels, sans avoir planifié de le faire, ou à un moment où ça va peut-être interférer avec notre quotidien, donc c'est un peu la perte du libre arbitre sur la manière dont on joue.
Et là, ça entraîne un certain nombre de problèmes, mais malgré tout, on continue à jouer.
Alors oui, parce que si la conduite de jeu est maintenue, c'est qu'elle a un certain nombre de conséquences positives, plus ou moins conscientes pour les personnes. Ça peut être par exemple, à un moment donné, de soulager un mal-être, ou bien d'obtenir de la reconnaissance, ou bien d'obtenir de la stimulation à travers des progressions dans le jeu, ou une reconnaissance de ses pairs à travers des classements internationaux. Il y a finalement toute une série de raisons qui nous permettent d'expliquer que les conduites se perpétuent.
Et pour que le diagnostic soit posé, il faut que l'addiction soit assez, d'une part, sévère et qu'elle dure.
Oui, alors on parle dans la description d'une période de temps significative, d'au moins une année, ou d'une période de temps significative qui se traduit par des conséquences vraiment tangibles dans la vie de la personne, sur le point de vue social, professionnel ou personnel.
Joël Bilieu, quel type de thérapie proposez-vous ?
Alors, il y a déjà différents centres qui existent, en Europe et également en Suisse, qui vont proposer tout d'abord un bilan de la situation, parce que dans beaucoup de cas de figure, on se rend compte qu'il y a des craintes qui peuvent être excessives de la part de proches d'adolescents, par exemple. Et dans les cas où c'est approprié, après cette période d'évaluation, on peut proposer des suivis de différents types, la plupart du temps des suivis donc de psychothérapie, donc n'appliquant pas forcément une médicamentation de type cognitive et comportementale ou de type familial dans d'autres cas de figure. C'est ce qui se pratique le plus fréquemment.
Donc vous ne préconisez pas l'abstinence. On sait que pour les personnes qui cherchent à se sortir de l'alcoolisme, c'est parfois ce qui est proposé, même assez souvent. Dans le cas des jeux vidéo, ça peut aussi fonctionner, l'abstinence ?
Alors, dans la plupart des cas, le modèle qui est le modèle privilégié dans ce genre de situation va être la reprise de contrôle sur le comportement. Donc pas forcément l'extinction ou l'abstinence totale. On sait qu'on est dans une société dans laquelle une myriade de stimuli vont nous amener à consulter nos smartphones, nos ordinateurs, les réseaux sociaux, enfin les technologies de l'information et de la communication. Bref, on va être amené à travailler avec les personnes pour qu'elles soient plus en mesure de faire face à ces situations-là et à réguler leur comportement plutôt que de prôner une abstinence totale. Le jeu en tant que tel n'étant pas quelque chose à considérer comme négatif. Je pense que c'est quand même important.
Oui, c'est ça. Vous le disiez, c'est 1 à 2% finalement des personnes qui tombent dans une forme de maladie, une pathologisation de leur accoutumance finalement au jeu, mais pour tous les autres, ça se passe bien, c'est ça que vous nous dites.
Tout à fait.
Voilà, exactement. Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et qui écoutent CQFD, Joël Bilieu. Si ils ont des enfants à la maison dont ils ont l'impression qu'ils passent un peu beaucoup de temps sur les jeux, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ? Et si oui, comment est-ce qu'on peut agir en amont avant que les choses finalement le dérapent ?
Alors ce qui va être important déjà, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les enfants font, à quoi ils jouent, pourquoi ils jouent. Mon conseil aux parents serait de s'intéresser au type de jeux déjà qui sont effectués par leurs enfants, quelle est la nature de ces jeux, quelles sont les motivations qui sont derrière, pourquoi les enfants jouent à ce type de jeu-là. Et puis à un moment donné, c'est le rôle parental, j'aurais tendance à dire de manière assez évidente, ça va être d'être en mesure de cadrer le comportement s'il y a besoin, avant de s'affoler de manière excessive.
Ouais, donc c'est fixer un nombre d'heures par jour où on a le droit de jouer, ou de minutes.
Alors, faut faire très attention avec le nombre d'heures ou le nombre de minutes, parce que c'est des guidelines qui sont pas éprouvés déjà scientifiquement. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir définir avec la personne quelles sont les conduites de jeu qui vont être réalisées, à quel moment, dans quel contexte, après quel type de tâche. Et typiquement, ça va permettre de contrôler la manière dont l'enfant va s'investir dans ces activités-là. Quelque chose qu'il faut absolument éviter, par exemple, ça va être, je sais pas, les parents qui voient leurs enfants jouer énormément, puis à un moment donné vont décider de tout éteindre un peu dans un acte un peu comme ça impulsif. Et là, on va avoir des crises de colère importantes qui vont se produire chez les enfants et qui sont en fait des phénomènes tout à fait normaux chez des enfants qui vont être tout d'un coup extrêmement frustrés parce qu'on les coupe d'une activité dans laquelle ils sont impliqués et pour laquelle ils sont passionnés.
Ouais,
donc ça va être vraiment important d'aller cadrer en amont plutôt que de réagir par des conduites de ce type-là, puis après de débarquer un peu en catastrophe en disant c'est incroyable, mon fils ou ma fille est malade, elle a fait une explosion de colère, elle a tout cassé dans sa chambre au moment où j'ai éteint le wifi.
L'important, c'est que finalement, que le jeune ne prenne pas le pas sur d'autres centres d'intérêt et sur les activités quotidiennes, qu'on ne les néglige pas, qu'on ne néglige pas ses amis aussi.
Oui, je pense que ce qui va être important, c'est la place du jeu dans la vie de la personne et que tout cela ait un certain équilibre. Hein, et qu'effectivement, vous mentionnez les choses les plus évidentes, ça va être de ne pas empiéter sur la vie scolaire, empiéter sur la vie professionnelle, empiéter également sur la vie familiale, hein, parce qu'on n'est pas que chez des jeunes ados, hein, on a beaucoup d'adultes qui jouent et parfois dans les gens qui viennent en consultation, on a des gens qui ont de la peine à concilier vie de famille et vie de joueur, et donc c'est pas une question qui est uniquement limitée aux plus jeunes.
L'addiction aux jeux vidéo qui fait son entrée donc dans la classification internationale des maladies. Merci beaucoup Joël Bilieu.
Merci à vous.
Professeur en psychologie clinique à l'Université de Luxembourg. Dans un instant, les plus grandes tortues de Méditerranée, Sylvie Dolzan.
Oui, Kawan ou Careta, celles qu'on va le voir, eh bien malheureusement elles sont blessées et puis on est en train de les dorloter dans un centre de conservation.
Il est 10h15 sur la première.
CQFD, votre émission de science et de santé.
Là où je vais, les sons ne sont pas pareils. Le ciel est plus bleu, il y a plus de soleil. C'est un pays docteur, un monde intérieur. C'est un long chemin, je sais, là où je vais, là où je vais, là-bas les peines de cœur, on en rit, le rire est un docteur qui guérit, là où je vais. Laver son cœur, laver sa mélancolie. La mer est un docteur qui guérit. Là où je vais, sont pas pareils. Le ciel est plus bleu, il y a plus de soleil. C'est un pays docteur, un monde intérieur. C'est un long chemin, je sais, là où je vais.
Laurent Voulzy avec Alain Souchon, évidemment, là où je vais, c'est un choix de Jean-Baptiste Roumens. Sujet animaux à présent dans CQFD. Nous vous proposons de découvrir comment se passe sur le terrain, au jour le jour, la conservation d'une espèce animale. Et cette espèce, c'est la tortue kawan, si je dois le dire.
Oui, kawan, appelée aussi careta. Careta, c'est son nom latin, mais c'est pas mal utilisé dans d'autres langues aussi. La tortue marine qui est la plus répandue en Méditerranée, aussi la plus grande qu'on y trouve. Elle peut largement dépasser le mètre de longueur et dépasser les 100 kilos. Oui. Plusieurs centres océanographiques répartis dans à peu près tout le bassin méditerranéen s'en occupent. On va en visiter un, le centre de conservation de la station zoologique Anton Dorn. Allez, départ.
J'aime quand vous dites départ.
Pas mal.
Et que ça sent la mer.
Oui.
Nous sommes où, Sylvio?
On est effectivement au bord de la mer, hein, évidemment. On est à Portici, pour être plus précis. C'est une petite localité du golfe de Naples, juste à côté d'Herculanum, hein, et de ses ruines, donc ouais. Juste au pied du Vésuve. Alors, nous sommes plus précisément devant les anciens abattoirs de la ville et de la région. Un bâtiment en briques rouges, assez imposant, qui vient d'être rénové, super bien rénové. Et à l'intérieur, les restaurateurs ont conservé les crochets auxquels on pondait les carcasses des animaux, sauf qu'aujourd'hui on n'y tue plus d'animaux, on les soigne et on les étudie. Alors je suis accueilli à l'entrée par la directrice des lieux, l'océanographe et biologiste marine Sandra Hochscheid. Elle m'explique tout d'abord brièvement le travail du centre.
Principalement, nous avons ici un projet de conservation des tortues marines. Nous aidons des animaux trouvés blessés ou en difficulté. Nous les amenons ici au centre et les soignons avec diverses techniques vétérinaires avant de les relâcher en mer. Nous essayons ainsi de maintenir la population au moins stable et surtout de maintenir en vie des animaux qui autrement seraient certainement morts. Nous recevons surtout des animaux qui se sont pris dans des filets de pêche ou qui ont été touchés par les pales des hélices des bateaux ou encore qui avalent des déchets, surtout plastiques, qui provoquent des traumatismes du tractus gastro-intestinal.
Et ça se présente comment à l'intérieur de ce centre de conservation des tortues?
Alors c'est assez grand, c'est un bâtiment avec plusieurs ailes. Alors à l'intérieur, il y a surtout quelques labos, comme dans n'importe quel institut de recherche. Mais surtout, dans une des ailes, il y a une quinzaine de bassins assez imposants, 3 mètres sur 3, on va dire, profonds d'environ un peu plus d'un mètre, 1,50 m. En fait, ces bassins, ce sont des lits d'hôpital dans lesquels barbotent des tortues, carapaces brun verdâtre, tête très carrée, très massive comme ça, et puis évidemment, gros yeux tout ronds. Sandra Hochscheid.
Nous hébergeons en moyenne 14 tortues simultanément et sur l'année entre 35 et 45 tortues différentes. La plupart sont des tortues trouvées dans la région, en campagne, mais de temps à autre, nous arrivent également des animaux trouvés dans d'autres régions et qui ont besoin de soins spécialisés.
Je vois que vous avez aussi des jeunes.
Oui, ces animaux devant nous sont des petits, mais ils sont également un peu insolites. D'habitude, ceux qui arrivent font au moins 40 cm de plus, parce que les tortues qui sont près de la côte sont généralement un peu plus âgées. Les jeunes vivent plus au large. Ceux-ci ont sans doute rencontré des problèmes qui les ont poussés vers la côte ou carrément sur les plages.
On reconnaît un jeune comme celui-là, qui fait quoi, 30 cm? Parce qu'il a encore des épines sur la carapace.
Oui, ces crêtes, ces épines sont un moyen de défense naturelle. C'est une sorte de mécanisme pour tenir les prédateurs éloignés. Au fur et à mesure que les animaux grandissent, ces crêtes disparaissent. La carapace d'un animal adulte est totalement lisse. Cette tortue-ci, d'une longueur d'environ 25 cm de carapace, doit avoir 2-3 ans, pas plus.
Elles deviennent assez grande, hein.
Celle-ci, juste à côté, est de dimension moyenne. Elle a environ 15 ans. Elle peut encore doubler de taille. Les derniers exemplaires que nous avons libérés pesaient 65 à 70 kilos et leur carapace mesurait près de 80 cm. Ils étaient arrivés à l'âge adulte. La majorité des tortues que nous accueillons font entre 55 et 65 cm, donc ce sont des adolescents.
Et elles peuvent vivre combien de temps en l'occurrence ?
Elles peuvent vivre jusqu'à 60, 70 ans, et sans doute encore plus. Sauf qu'aucun chercheur n'a pu suivre une tortue durant toute sa vie. On pense que certaines dépassent les 100 ans, mais ça n'a pas été vérifié sur le terrain.
Silvio, il existe plusieurs centres qui s'occupent de cette tortue kawan, donc cette tortue careta, c'est qu'elle est menacée?
Moi, j'ai tendance à dire comme tous les animaux marins, ou presque, en fait, pour l'UICN, donc l'Union Internationale de Conservation de la Nature, qui est l'organisme responsable de ce fameux établissement du degré de vulnérabilité de chaque espèce, animale ou végétale, pour l'UICN, donc la careta était considérée comme en danger. Alors, je dis était parce que cette appréciation vient d'être légèrement revu à la baisse.
La valutazione dello Stato viene fatto regolarmente per la IUCN.
La validation de l'état de conservation est faite régulièrement par l'UICN. Il y a quelques années en Méditerranée, la tortue careta, celle que nous voyons ici, a été déclassifiée. Cela signifie qu'aujourd'hui, l'état de sa population n'est plus aussi préoccupant qu'avant. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'a plus besoin de mesures de conservation. Au contraire, l'UICN dit elle-même que si un jour on cessait de prendre des mesures telles que celles que nous prenons, la population s'écroulerait. Donc, cette déclassification veut simplement dire que nous faisons un bon travail, nous et les autres centres autour de la Méditerranée.
Tutti quelli insieme nel Mediterraneo, perché per il momento non è un immediato pericolo che la popolazione diminuisce.
On les trouve un peu partout, ces tortues kawan.
La careta è la specie più distribuita nel Mediterraneo, ma anche
la careta è la più comune in Méditerranée, ma elle se rencontre dans toutes les mers. Principalement dans les zones tropicales et subtropicales, mais c'est une espèce qui peut aussi aller un peu plus au nord. La nidification doit avoir lieu sur des plages assez chaudes, pourtant depuis quelque temps, elle a aussi lieu ici à Naples. Depuis 2012, nous découvrons chaque année une moyenne de 4 à 5 nids. Ce changement est lié à l'augmentation de la température et au changement climatique.
Oui, parce que avant, cette tortue nidifiait principalement tout à l'est de la Méditerranée.
Exactement. D'ailleurs, encore maintenant, les principaux lieux de nidification sont tous dans le bassin oriental. Mais c'est vrai qu'avec le changement climatique, il semble que les habitats dans cette partie de la Méditerranée deviennent plus adéquats pour accueillir des pontes. Peut-être que nous sommes en train d'assister à une nouvelle colonisation. C'est trop tôt pour l'affirmer, mais peut-être que ça se confirmera d'ici la fin de ma carrière.
À la fin de ma carrière, je pourrais vérifier si est venue cette nouvelle colonisation.
Les tortues careta ce matin, on va voir dans un instant comment on soigne les tortues qui arrivent blessées dans ce centre de conservation. Tout cela après Bastian Baker, Love on Fire, dans CQFD sur la première, 10h27.
Drinking from a cheap bottle of wine in a home where I know nothing's mine. No nothing's mine. From the old dusty mirror to cracked wooden tables, I know nothing's mine. No, nothing's mine. In the flash of the instant, the sparkle in your eyes, it burned away time, burned away time. Now when you light me up, turn to fire. When we make love, you take me higher. You know I'd like to hold you and never let you go. Darling, let me do just so. Ooh,
QFD, votre émission de science et de santé, à la découverte aujourd'hui d'un centre qui vient en aide aux plus grandes tortues de Méditerranée, les tortues les plus nombreuses aussi, on l'a entendu, les tortues Kawan ou Carreta Carreta. Nous sommes dans un centre de conservation de ces tortues situé à Portici, près de Naples. Sylvie, vous nous disiez que ce centre est un véritable hôpital, donc ça veut dire qu'on on se contente pas de garder ces tortues au repos dans des bassins.
Non, la plupart du temps, elles sont là comme ça, mais effectivement, la directrice, on va le voir, la directrice Sandra Urschein m'a emmené quelques pas plus loin, dans une autre aile, vers d'autres bassins, un peu plus petits ceux-là. Et là, j'ai découvert à côté une salle d'opération complète.
Exact, c'est un ambulatoire et une salle d'opération vétérinaire complète. On y pratique les traitements, les analyses, et vous remarquerez que ces parois sont en verre pour permettre au public de suivre ces traitements. Juste à côté de nous, il y a la zone de quarantaine. On y voit des animaux encore faibles qui n'ont pas récupéré leur pleine capacité à nager. Les bassins de cette zone sont équipés de fonds mobiles qu'on peut élever parce que certaines tortues ont encore de la peine à nager jusqu'à la surface et pourraient donc se noyer. En plus, ça nous permet de les traiter en surface, leur mettre des pommades, etc., au sec, mais sans devoir les sortir du bassin.
Vero per la maggior parte è meglio di tenerli in acqua perché loro ambiente naturale e la nostra qualità della.
Évidemment, c'est mieux de les maintenir dans l'eau, c'est leur environnement. D'ailleurs, nous sommes très pointilleux sur la qualité de l'eau des bassins. Les contrôles sont constants afin que les tortues puissent y rester longtemps. Parce qu'en fait, une tortue qui est au calme a une excellente capacité de guérison. Nos traitements sont juste l'impulsion pour que ça aille encore plus vite. Dans ces bassins, elles n'ont pas beaucoup de place pour bouger, mais c'est voulu. Souvent, elles ont des problèmes à une nageoire, donc une mauvaise mobilité, et c'est mieux qu'elles restent tranquilles. Par exemple, s'il y a fracture, l'os guérira ainsi plus vite. Autre aspect pratique, comme nous devons leur donner des soins tous les jours et donc les attraper, ce serait plus difficile et plus stressant pour elles dans une vasque plus grande.
Et quelles sont les principales pathologies des tortues auxquelles sont confrontés les vétérinaires du centre?
Alors, comme on l'a entendu au début, il y a de plus en plus de problèmes gastro-intestinaux, hein, mais pas simplement tout bête, mais non, dû à l'absorption par les tortues de déchets de toute nature, principalement des plastiques. Mais bon, la majorité des cas, pour l'heure, restent d'ordre, on va dire, orthopédique, hein, liés à des rencontres inopinées entre un animal et un filet dérivant. Parfois, les symptômes peuvent être vraiment très graves. C'était le cas là, d'une jeune tortue d'une quinzaine d'années, totalement immobile dans son bassin. C'est celle dont j'ai tiré le portrait, qui est en photo sur notre page internet. Oui. Alors, elle était immobile dans son bassin juste à côté de nous, et sa nageoire avant droite pondait tristement sous son corps.
La pinna qua in questo caso è stata ferita per intrappolamento.
Dans ce cas précis, la nageoire a été prise dans les mailles d'un filet, un filet qui a peut-être été abandonné en mer. Il y en a beaucoup et c'est un vrai problème. Les tortues se prennent dedans, parfois elles peuvent même y perdre une nageoire. Quand elles se coincent, ça peut bloquer la circulation du sang. Ces tortues arrivent chez nous avec une nageoire déjà à moitié tombée ou du moins quasi inutilisable. Nous essayons de la soigner. Il faut préciser qu'une tortue peut évoluer avec une seule nageoire antérieure totalement efficace. Elles arrivent tout de même à suivre les migrations. Nous en avons suivi une qui était dans ce cas grâce à un GPS. Nous avons vu que cette tortue est allée en Libye, en Tunisie, donc elle bougeait quand même beaucoup. Ça nous rassure parce que ça prouve que notre réhabilitation fonctionne.
Quindi siamo abbiamo visto che la tartaruga andava fino a Libia, Tunisia, quindi faceva grandi movimenti e ci rassicura che è una forma di riabilitazione valida ed è con successo possibile.
Est-ce que vous les relâchez à l'endroit où elles ont été trouvées?
Questo vale in grosso modo per la zona generale, nel senso della regione qua.
On va dire que nous les relâchons dans la même région, peut-être pas à l'endroit exact, pour deux raisons. D'abord, nous essayons de faire des remises à l'eau de plusieurs individus à la fois parce que nous invitons le public à assister à l'événement. Deuxièmement, parce que comme elles ont toutes été trouvées ici, elles sont chez elles.
Chiaramente non sono tutti dello stesso posto, però e sicuramente teniamo la regione in considerazione.
Oui, Sandra Horscheid qui vient de préciser donc que le public était convié à assister aux remises à l'eau. Puis elle a dit tout à l'heure que la salle d'opération était vitrée. Donc ça veut dire que le centre de Portici a vraiment un rôle éducatif.
Ah, très très clairement. Alors ce centre-là, je vous dis que c'est un bâtiment rénové, donc il est très très récent. Il a été inauguré il y a moins de 2 ans avant le centre de conservation était ailleurs. Et en fait, les responsables ont voulu, dès la conception du centre, en faire un outil de sensibilisation. Il y a plein de choses interactives aussi, dont on n'a pas parlé, mais pour le public. Mm-hmm. Sensibilisation évidemment au monde marin en général, et quoi de plus charismatique et attrayant qu'une tortue pour faire passer le message.
Ouais. Et pour refaire allusion à la photo que vous avez publiée sur le site, avec elle a une gueule
elle est craquante. En plus, elle venait, pour la petite histoire, elle venait d'arriver et elle était entre guillemets hyper affectueuse, quoi. Elle sortait la tête du bassin, elle venait vers nous, etc. Sauf qu'évidemment, faut pas qu'on les touche puisqu'elles vont être relâchées, etc. Donc il y a que les vétos qui les manipulent le moins possible.
D'accord. Donc un centre de soins pour ces tortues, un lieu de sensibilisation, et c'est aussi un laboratoire de recherche.
Alors, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais c'est bien évidemment le travail principal, en tout cas de la directrice, Sandra Horscheid. Ça fait 20 ans que cette biologiste marine consacre tout son temps aux tortues.
La recherche est une partie fondamentale.
La recherche chez nous est très importante. Je vous ai dit que c'était une espèce à risque. Pour faire notre travail de conservation, nous devons fournir des informations biologiques sur l'espèce. Donc, nous faisons des recherches de base sur 4 aspects. Le premier est la répartition, les migrations, donc le comportement des animaux dans la nature. Le deuxième porte sur la connexion entre les différentes populations, l'aspect génétique, comment les tortues Kawan qui viennent de l'Atlantique se mélangent avec celles d'ici. Troisièmement, nous étudions la physiologie et la santé des tortues, traitement vétérinaire, physiologie de base, et enfin l'effet anthropique, l'effet qu'ont les activités humaines sur les tortues, y compris le changement climatique.
La quarta invece è l'effetto antropico, quindi l'impatto che l'uomo e le attività dell'uomo hanno sulle tartarughe, incluso il cambiamento climatico.
Alors on peut bien imaginer que les tortues, elles vivent en mer, donc ces recherches sur le terrain, sous l'eau, à distance, ne peuvent être réalisées que grâce à des balises dont on équipe les tortues qu'on relâche.
Si usano degli apparecchi tecnologici per monitorare e registrare il comportamento degli animali.
On utilise des appareils électroniques pour surveiller et enregistrer les mouvements des animaux loin d'ici. Évidemment, il y a les balises GPS, mais aussi d'autres instruments qui enregistrent, par exemple, les immersions, leur longueur et leur profondeur. Et nous savons que les Kawan vont jusqu'à 180 mètres, mais c'est un maximum. Pour comparaison, les tortues luttes, les plus grandes qui existent, peuvent descendre communément jusqu'à 1300 mètres de profondeur, ce qui est un record. Toutes ces données nous permettent de suivre un animal sans avoir besoin de nager derrière lui, ce qui serait plutôt difficile, surtout quand elle migre sur des milliers de kilomètres. Et nous pouvons ainsi connaître leur cycle vital.
Soprattutto quando fa le migrazioni di migliaia di chilometri, allora possiamo così dal remoto prendere questi dati e analizzare la vita, il ciclo vitale.
Quand vous libérez les tortues qui sont chez vous là maintenant, vous les équipez de façon à pouvoir les suivre?
A tutti non possiamo metterlo perché sono molto costosi.
On ne peut pas, ça coûte trop cher. Nous en sélectionnons une ou deux par remise à l'eau. Et à chaque fois, nous devons présenter un projet pour obtenir le financement. Un transmetteur GPS, ça coûte environ 2000 euros, auquel il faut ajouter 1000 euros de gestion et transmission des données. Donc 3000 euros multipliés par 40 tortues relâchées par année, ça ferait un peu beaucoup.
Diventa già difficile a pensarci poi a liberare 40 tartarughe all'anno. Questo sì.
Donc à Portici, on arrive péniblement à un total d'aller de 3-4 tortues par an qui sont équipées d'une balise lorsqu'on les relâche. Mmh. Mais comme il existe une petite douzaine de centres similaires à celui de Naples autour de la Méditerranée, toutes ces institutions partagent évidemment les données qu'ils récoltent. C'est qu'ainsi qu'on parviendra à mieux connaître Caretta Caretta, donc aussi à mieux la protéger.
La protéger, la conserver, la protection, la conservation de la tortue Caretta Caretta. C'était un dossier proposé par Sylvie Delezan avec Frédéric Volery pour la voix de la traduction. Voici une chanson et nous verrons comment la science réussit de manière toujours plus précise à estimer la mort d'un individu dont on a découvert le cadavre en décomposition.
CQFD sur la première.
Thank you. jour. Fort bien que je me nouille. C'est ma première surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance en céphalo qu'il faut. J'ai du bol, j'en vois un qui rigole. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser venir. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer. Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne. Et quand on a son club, son mois d'août en Espagne, son comme un vide. Oh, mais moi, tu me cuis. Oh, Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Oh, Gabi, Gabi, tu vas te sentir la mer. Bien plus belle que Morissette. Qui pèse comme un pétard qui attend plus qu'une allumette. Ça fait craquer au feu des pompiers. Aujourd'hui c'est vendredi et j'aimerais bien qu'on m'aime. Je sens que je vais encore finir chez Vanda et ses sirènes. Et ses sirènes. Oh 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 oh. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit.
Reprise d'un tube, évidemment, par les Bébés Brunes. Un tube, je sais pas si j'ose vous faire l'affront, Stéphane Delletreau, Sylvie Dolzan, de vous demander qui était à l'origine de cette chanson, là-bas.
Ouais, parce que
c'est un peu facile.
C'est vachement que c'est un peu facile. Par contre, l'année, ce serait plus difficile.
Eh ben, je l'ai pas sur ma feuille. Et là, c'est là que l'animateur, il passe vraiment pour les derniers désignards. Ben voilà, je sais pas. Alors, Gabi au Gabi, c'était un, je sais pas, les années 70, j'imagine.
Il y a très longtemps, ouais.
Il y a un petit moment, mais c'est vrai que c'est une belle revisite, si je peux le dire comme ça, un peu rock comme ça, du groupe Bébé Brune. Sujet science forensique, science criminelle pour terminer l'émission. Pour estimer la date de la mort d'un cadavre humain en état avancé de décomposition, on interrogeait jusqu'ici par exemple les larves et les mouches. En janvier 2017, Anne Béchard nous présentait les résultats d'une thèse présentée à l'université de Neuchâtel. Une thèse qui s'intéressait à d'autres indices parlants dans les sols.
Oui, on étudie notamment les changements chimiques et biologiques sur ces sols impactés par la présence du cadavre. On cherche à estimer l'abondance de certains micro-organismes présents dans les sols, sous les corps. On cherche à savoir comment la structure de ces communautés de micro-bébêtes évolue au fur et à mesure que le cadavre se décompose. Eh bien oui, parce qu'un cadavre qui se décompose dans la nature, c'est une véritable aubaine pour certains de ces micro-organismes. Cela représente à boire et à manger, vous l'imaginez bien, avec pullulation plus ou moins évolutive et variation d'espèces.
Voilà, on va en savoir plus grâce à Edouard Mitchell, professeur à l'Institut de biologie de l'Université de Neuchâtel. Il dirige le laboratoire de biologie du sol. Nous lui avons tout d'abord demandé avec Anne de nous présenter les micro-organismes qui se développent sous les cadavres en décomposition.
Dans un sol, il y a une énorme diversité d'organismes, des bactéries, des champignons, des amibes, des invertébrés comme des nématodes, toutes sortes de groupes. Et donc, en fait, un cadavre va impacter toute cette communauté. Vous imaginez bien qu'un sol, imaginons un sol forestier normal, les communautés qui vont s'y trouver n'ont rien à voir avec un cadavre. Et donc, quand un cadavre se décompose sur un sol, la majorité des organismes, en fait, ne vont pas du tout aimer ça, et la majorité vont, en fait, simplement disparaître. Mais d'autres, par contre, vont aimer ça. Et en fait, Ildiko a développé cette très jolie image des cadaver lovers et puis des cadaver haters.
Donc, les amoureux
des cadavres, ça existe.
Ceux qui les détestent.
Voilà. Et donc, certains organismes vont se développer, vont pulluler à certains stades de décomposition du cadavre. Et c'est cette information, donc d'un côté les organismes qui réagissent négativement et d'autre côté ceux qui réagissent positivement, cette combinaison des deux, en fait, nous permet d'envisager une méthode de datation effectivement assez précise et sur une assez longue durée, puisqu'on parle non pas de semaines, mais de mois, voire de plusieurs années.
Alors, pour bien comprendre ce nouveau type d'analyse, on va être très concret. Vous me disiez hier au téléphone que vous avez étudié tout cela à partir de carcasses de cochons en décomposition sur différents sols, mais que vous avez également eu la chance, enfin pu travailler sur un vrai cas humain, un cas non résolu d'un corps trouvé en état de décomposition avancée. Lorsque vous vous êtes rendu sur place dans ce cas précis, comment est-ce que vous avez procédé? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Concrètement, on prélève des échantillons de sol sous le cadavre, différents endroits du cadavre, et puis on prélève également des échantillons aux alentours, dans un sol qui a priori n'a pas été impacté par le cadavre. Ça nous permet d'avoir la référence naturelle pour pouvoir contraster donc le sol impacté par le cadavre avec le sol qui ne l'a pas été.
Et ces prélèvements, vous les soumettez à des analyses ensuite?
Voilà, donc là-dessus, on a analysé la composition chimique du sol, puisque le cadavre lui-même va libérer toute une série de molécules et donc d'éléments chimiques qui vont modifier la composition chimique du sol. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a étudié les nématodes, qui sont des vers microscopiques très très abondants dans les sols, et qui donnent aussi donc une indication sur le type de sol, et en particulier sur l'impact des cadavres. On a aussi étudié les acariens, qui sont des arthropodes connus parfois pour être allergènes. On n'aime pas trop les avoir dans nos matelas, par exemple. Mais donc là aussi, il y a toute une diversité, et puis certains acariens qui sont spécifiques de certains stades de décomposition des cadavres. Et puis enfin, on a extrait l'ADN complet du sol et on a analysé tous les eucaryotes, c'est-à-dire tous les champignons, tous les amibes, les protistes du sol et invertébrés. Donc, et ça nous a donné encore une source d'informations supplémentaires. Et toutes ces faisceaux d'indices, en fait, ont convergé pour montrer qu'effectivement, on avait un impact très clair dans ce cas de figure du cadavre en décomposition sur le sol. Et par analogie ou par comparaison, disons, avec nos expériences sur les cochons, on a pu estimer que ce cadavre était là depuis au moins une année.
Une année, ouais.
Voilà. Donc ça nous permet, disons, de donner une date de mort, une durée minimum de décomposition. On peut pas, à ce stade, encore être très précis sur un tel cas, parce que on ne fait que commencer ces études. Hein. Donc là, on a une thèse qui s'est terminée, mais on a quelques échantillonnages. On a des échantillonnages, disons, plus serrés dans les premiers stades de décomposition. Puis on a continué l'échantillonnage, mais de manière de plus en plus lâche. Et puis, en fait, au début, on pouvait pas imaginer qu'on ait encore un signal une année, voire même plusieurs années. On a maintenant encore des données sur 3 ans et plus, où on voit encore un impact du cadavre. Donc ça voudrait dire
après
3 ans, on a encore tout à fait une signature de la présence d'un cadavre. Donc vous imaginez qu'après 3 ans, il ne reste plus rien. Même les os souvent ont été dispersés par les animaux, ou bien voire ils sont un peu cachés dans la litière. Vous n'allez pas forcément facilement trouver des os, mais vous allez trouver des communautés de micro-organismes du sol qui montrent encore la présence d'un cadavre. cadavre.
Mais dans le cas de ce cadavre, comment vous arrivez à faire cette estimation de une année, voilà, ça fait un an que ce cadavre était présent sur ce sol?
Eh bien, parce que les organismes qu'on y trouve sont les mêmes que ceux qu'on a trouvés sous nos cadavres de cochons après une année. Et donc, si on avait trouvé les mêmes communautés qu'après 6 mois, eh bien, on aurait pu dire, non, on n'est pas encore arrivé au stade d'une année.
Donc, vous avez comme une espèce d'échelle, en
exactement,
fait, c'est ça.
Exactement, ça donne une échelle temporelle.
Alors, vous allez être plus précis, Bastien?
Non, mais je me disais, est-ce que vraiment le cochon c'est la même chose que l'homme en l'occurrence? Parce que vous, votre référence elle est sur le cochon, pas l'homme.
Voilà, bon, certains hommes peut-être sont un peu des cochons, mais c'est autre chose. Alors en fait, bon, c'est clair, c'est plus pratique de travailler sur des cochons que sur des humains. On a qu'à aller acheter le cochon. Bon, il faut remplir évidemment certaines conditions d'éthique, etc. Mais en Europe, en tout cas, on n'a pas la possibilité d'utiliser des cadavres humains. Ça se fait ailleurs. Il y a une ferme aux États-Unis. Ils appellent ça des body farms au Tennessee où ils utilisent des volontaires, donc des personnes qui décèdent et veulent donner leur corps pour ce genre d'expérience. Donc là, ils utilisent des cadavres humains. Il y a aussi un tel site expérimental en Australie. Il y a des discussions pour développer ça en Europe. C'est vrai que ce serait quand même préférable de pouvoir travailler sur des cadavres humains, ne serait-ce déjà que dans un premier temps pour valider le modèle cochon. A priori, ça donne les mêmes résultats, mais il faudrait quand même le valider, surtout si après ce genre de méthodes sont utilisées pour des cas concrets criminels.
Il y a des problèmes éthiques, j'imagine. Il faut que ça passe dans l'imagerie courante de faire des body farms en Suisse. C'est peut-être pas tout de suite maintenant.
Non, c'est pas le truc le plus glamour, effectivement. Donc effectivement, faut que les autorités comprennent l'utilité. Peut-être qu'on sera d'accord sur le principe, mais peut-être pas juste derrière chez nous. Mm-hmm. Donc il faudra trouver l'endroit discret.
Pareil. Ouais. On veut bien, mais pas chez nous. Voilà. Les méthodes habituelles pour déterminer l'âge d'un cadavre sont par exemple l'entomologie forensique, soit l'observation des mouches et des larves. Alors vous dites qu'elles perdent de leur précision après quelques semaines, alors vous, votre méthode, elle est bien plus précise et sur justement une période plus longue en entomologie forensique. C'est quoi? C'est après peu de temps, on perd de la précision?
Ben, ça dépend, disons, du climat. Si vous êtes en période estivale, après 3-4 semaines, il reste plus que la peau et les os, donc ça va très vite. On peut aller un petit peu au-delà, ça dépend des organismes, des différents groupes d'insectes continuent d'être présents sur la carcasse, mais la précision devient effectivement de plus en plus faible. Alors que les organismes du sol, on voit vraiment des successions qui continuent, même quand les insectes ont fini leur travail.
Stéphane,
en fait, au début de la décomposition, vous avez déjà des larves sur le cadavre, mais à ce moment-là, le sol n'est pas encore impacté. L'impact dans le sol commence à partir du moment où on a des jus qui suintent, on a ce tsunami de nutriments qui arrive dans le sol. Et avant ça, en fait, on a déjà une indication par les insectes, mais pas encore, je dirais, par les organismes du sol. Donc il y a un chevauchement là, à ce niveau-là.
Stéphane,
vous avez parlé du climat. Est-ce que le lieu où on retrouve le cadavre a aussi une influence sur les micro-organismes? Est-ce que ce sera différent, par exemple, dans une forêt, dans un champ ou sur une plage?
Tout à fait. Alors, différent parce que simplement le microclimat n'est pas le même sous une forêt et dans un champ ouvert. Vous pouvez imaginer qu'en été, il ferait plus frais dans la forêt. Donc, la décomposition va être différente et l'impact sur les organismes sera différent. Les organismes, les communautés d'organismes du sol ne sont pas les mêmes dans un champ labouré, par exemple, et dans une forêt.
Ouais.
Ou dans une forêt de feuillus, une forêt d'épicéas. Donc, voilà. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait idéalement faire ce genre d'expérience dans différents types de milieu pour voir si on a des invariants, si on a les mêmes successions d'organismes. Ça peut être peut-être des espèces différentes, mais par exemple des genres ou des familles identiques. On pourrait par exemple avoir certaines groupes taxonomiques, disons, assez grossiers qui réagiraient ou qui seraient signatures de la présence d'un cadavre vieux de 6 mois ou d'une année, même si peut-être que dans une forêt de hêtres ou d'épicéas, ce seraient deux espèces différentes, mais du même genre ou de la même famille, par exemple.
Et du coup, j'imagine que c'est une méthode qui ne va pas du tout fonctionner si on retrouve le cadavre sur le carrelage d'une salle de bain ou sur le béton ciré.
Dans un tonneau avec du béton.
Voilà, c'est ça.
Exactement. C'est ça. Ouais. Non, c'est sûr que cette méthode, elle est utile uniquement en milieu naturel ou semi-naturel.
Voilà. Donc, conseil à toute personne qui aimerait assassiner sa belle-mère, faites-le à l'intérieur, enfin laissez le cadavre à l'intérieur, surtout pas sur un sol en extérieur, c'est cela.
On
peut voir ça comme ça. Anne.
Une dernière question encore, les variations météo, les saisons, la la température, j'imagine que ces populations de ces micro-organismes, ils sont sensibles aussi?
Absolument, oui. On a effectivement des cycles saisonniers, des communautés qui varient naturellement d'une saison à l'autre. Et donc, l'impact du cadavre se superpose à cette variation saisonnière. Donc, il convient effectivement, quand on fait nos expériences, on a toujours les sites impactés par les cadavres. Et puis, on a aussi des placettes d'études où on n'a rien du tout. Et là, on fait les prélèvements en parallèle. Comme ça, on peut voir vraiment l'impact du cadavre indépendamment de ces fluctuations naturelles saisonnières.
Et puis je me dis, on pourrait peut-être suivre les criminels à la trace, c'est-à-dire que la même population de micro-organismes trouvés sous un cadavre, on pourrait les retrouver sous les semelles d'un potentiel meurtrier, non ?
Oui, tout à fait, ouais. Effectivement. Ça, c'est une autre utilisation des organismes du sol. Et il y a déjà eu 2-3 cas où ce genre de choses ont été effectivement utilisées.
Analyser les micro-organismes présents dans le sol sous un corps en décomposition. Pour nous en parler, Edouard Mitchell, professeur à l'Institut de biologie de l'Université de Neuchâtel, directeur du laboratoire de biologie du sol, invité une première fois dans CQFD, c'était en janvier 2017.
Boca com nariz, é na paiol que mora. Quem quica crescinca, tá
ambiance capverdienne avec Nancy Vieira, Bocas di Payol. Au menu CQFD de ce mardi matin, l'addiction aux jeux vidéo classifiée officiellement comme une maladie par l'OMS. Reportage dans un centre de soins et de conservation de la plus grande tortue de Méditerranée, la Kawan. Et de nouveaux marqueurs très prometteurs pour dater un corps en décomposition.
CQFD, Stéphane Gabiou.
Demain matin, autour de cette table, il y aura notamment vous, Silvio. On parlera de quoi demain?
Alpa Ray, 600 sismographes, tout un réseau entre Perpignan et Budapest, Francfort et la Corse. Tout ça pour surveiller la sismologie des Alpes et surtout peut-être pour mieux connaître comment les Alpes se sont formées.
Intéressant. 600 sismographes, ben voilà, on fera leur connaissance l'un après l'autre demain, on se réjouit. Et puis on évoquera également l'évolution des espèces. Julien Magnolet nous a rejoint. Bonjour Julien.
Bonjour.
Dans Tribu dans quelques minutes, les Makers.
Stéphane, est-ce que vous utilisez fréquemment une imprimante 3D?
Non. Ah. Non, jamais.
Enfin, les Makers, par exemple, le font pour la plupart. Donc les Makers, c'est un peu ces bricoleurs du 21e siècle qui bricolent plein de choses et qui parfois amènent des choses qui envahissent ensuite parfois le marché, mais surtout qui ont une philosophie assez importante. Et on va essayer de la comprendre avec Isabelle Berébi-Hoffmann. Elle est sociologue, elle a étudié avec d'autres ce monde des Makers.
D'accord, je me rends compte que je suis très 20e siècle en fait. Il faut que j'évolue un peu, voilà, et je me mette à la page. Bonne émission Julien, à demain. Il est tout juste 11h sur la première.